René Pujol, Le soleil noir, la fin du monde. Ce fut au crépuscule que je sortis pour la seconde fois de notre refuge souterrain. Monsieur Cerneval était venu me conduire jusqu'à l'orifice. Il se montra guilleret jusqu'au moment où la chaleur devint insoutenable pour lui. Il me souhaita alors bon voyage et rentra vite dans la galerie comme un escargot dans sa coquille. Quand le feu follet de sa bougie se fut évanoui, je sentis mon cœur se serrer. Je m'assis sur le seuil pour habituer mon organisme à la température ambiante. Mon horizon était assez borné. À ma droite se hérissait un bosquet dont les arbres étaient complètement dépouillés. À ma gauche, assez loin, le fleuve roulait vers l'océan. Devant moi, les toits d'un hameau se découpaient dans le soir. Le paysage était tel que je le connaissais, et cependant il me parut différent. Je compris bientôt pourquoi. La nature avait perdu ses colorations habituelles. Tout était devenu d'un roux noirâtre, comme la lande après un de ces incendies qui, passant à la vitesse d'un cheval au galop, ne brûlent que les herbes et les broussailles, les feuilles et les brindilles, et laissent les pins debout, pareils à des spectres. Le chemin étirait son ruban. Je l'arpentais maintenant à grands pas pour arriver avant la nuit. L'étoile du berger brillait dans le ciel. La grande ourse dessinait son trapèze. Le bœuf mort, le cadavre de l'homme, m'impressionnèrent moins que la veille. Mais en pénétrant dans le village, je frissonnais. Tout évoquait la fuite, l'abandon précipité. Les portes étaient entrebâillées, les maisons obscures, les murailles dégageait une chaleur ardente telle des parois de four. Chez moi, j'arrachais les couvertures de mon lit. J'avais peur de mourir seule. Je me rappelais toutefois les reproches de Madame Sternebal et je m'emparais de couteaux et de fourchettes. Rien ne me pressait et je m'énervais comme un voyageur qui va manquer son train. Je frappai chez l'épicier. Un jappement me répondit. Je fus rassurée. Je frappai encore pour entendre de nouveau le chien. Il me répondit et j'entrai. Il s'élança alors follement, heurtant de son museau mon genou blessé et m'arrachant un cri de douleur. « Madame Ferry, êtes-vous là ?» Elle était là, mais silencieuse de l'éternel silence. Je ne la vis que lorsque j'eus une bougie au poing. Elle était affalée sur son comptoir, les bras étendus, comme pour défendre sa caisse. Ce que je fis ensuite fut purement machinal. Je me transformai en cambrioleur. Je vidai les rayons de la boutique, m'emparant du sucre, des boîtes de sardines, d'un petit baril de hareng, d'une pièce de lard, de deux caisses de biscuits, de 6 litres de vin, et j'emballai ces précieuses marchandises dans mes couvertures. Avec un « an » de colporteur, je juchai le pesant ballot sur mes épaules. Je me mis en route et m'arrêtai souvent pour souffler. Tout à coup, le chien traversa la route à quelques pas de moi, et je compris qu'il m'accompagnait. Ce témoin de mon cambriolage me gênait. Je lui lançai des cailloux, mais en vain. Il s'attacha à mes pas en se maintenant prudemment hors d'atteinte. Mes mauvais yeux m'empêchaient de le suivre dans ses évolutions. Mais il gémissait parfois, comme pour me dire « Laisse-moi devenir ton esclave, je t'aimerai. Nul ne survit que moi sur cette terre de désolation. Réunissons-nous. » Près de la carrière, il aboya à pleine voix et quelqu'un le siffla. Je pensais que M. Sternbald m'attendait à l'orifice de la galerie. Une ombre humaine apparut. « Je suis très chargé, » dis-je avec enjouement, « mais je ne serai pas obligé de retourner demain au village. Ces dames ne s'impatientent pas trop ?» À ma grande surprise, une voix nasillarde me répondit. « J'ignore, monsieur, de quelle dame il est question. De quel village s'agit-il ? Qui êtes-vous » répliquai-je. « Si nos interrogations se croisent, remarqua l'inconnu, nous causerons longtemps sans apprendre grand-chose. Je désire tout d'abord savoir où je suis. Ah, tant mieux, vous avez de la lumière. » Je venais d'allumer ma bougie afin d'identifier l'individu. L'inconnu était un petit monsieur d'environ 50 ans, au visage perdu dans une barbe ébouriffée, aux yeux bleus saillants. Il avait peu de cheveux, ainsi que je le constatais quand il ôta poliment son chapeau. Son corps maigre flottait dans une ample redingote sortie des mains d'un bon faiseur, mais actuellement sale et déchirée. Il se soumit avec complaisance à mon examen méfiant. « Vous m'avez demandé qui je suis, » dit-il. C'est une curiosité légitime. Je ne vous offrirai pas ma carte, car le temps n'est pas aux cérémonies, et d'ailleurs j'ai égaré mon portefeuille. Je suis Onésime Sinécarmieux, astronome à l'observatoire de Floirac. Connaissez-vous l'observatoire de Floirac? Ces trois coupoles, entourées de beaux arbres, ressemblaient à trois champignons blancs dans un herbage. « Quelle poésie, monsieur! Mais je vous retiens peut-être. » Cette faconde m'étourdit un peu. « Que me voulez-vous ? » fis-je, toujours sur mes gardes. « Rien, monsieur. Je suis un bonhomme qui a besoin de tout et qui n'ose rien demander. Comprenez-vous cela ? Je pense que je sors d'un accès de fièvre chaude. J'ai des souvenirs vagues. J'épiais le soleil, monsieur, et, crac, une fêlure dans mon intelligence. Ce n'est pas gai. Je me souviens d'une course prolongée, extrêmement prolongée, à tel point que j'ai les pieds en sang, littéralement en sang. Et me voilà, ici, éberlué, mais en pleine possession de mes facultés mentales. Où suis-je ? À Roque-de-Taux. Dans quelle partie de la Gironde est situé cet endroit ? Près de Blaye. Non, dit fermement M. Sinécarmieux. Comment non ? Vous ne me ferez pas croire que je suis venu près de Blaye, à pied. C'est risible, monsieur. Je marche comme un cloporte, à Roque-de-Taux, moi. Si ce n'était la fin du monde, je ferais une communication à l'Académie des sciences. « Qu'est-ce qui vous fait supposer que c'est la fin du monde ?» Il mit le bout de son index sous sa paupière droite. « Mon œil. »« Votre œil ?»« Mon œil d'astronome, collé à l'objectif d'un télescope. Je sais ce que je sais. »« Bien, monsieur, dis-je, mais voilà assez longtemps que vous me laissez à la chaleur. » Alors qu'il fait infiniment plus frais dans les carrières. Demandez-moi le renseignement qui vous est utile et serviteur. Monsieur Sinécarmieux fit claquer sa langue. La chaleur vous énerve, dit-il. Cela est normal. Je n'ai plus le moindre renseignement à vous demander. Je sais où je suis, c'est déjà beaucoup. Dans quelques heures, quand je mourrai, je penserai que c'est à Roque-de-Taux. « Arrangez-vous pour ne pas mourir, conseillai-je. »« Arrangement délicat, monsieur. »« À propos, j'ignore votre nom. »« Arrangement délicat et superflu. »« Je vous répète que c'est la fin du monde. »« C'est possible, dis-je, mais je m'entête à vivre. »« Vous n'avez pas tort, monsieur. Mais moi, qui suis aussi têtu que vous, je suis forcé de mourir. Je suis affreusement malade et je n'ai pas d'asile. Phébus a eu miraculeusement pitié de moi. Mais demain matin, il m'expédiera à Patresse à Roquelutot. Cette carrière est aussi bien à vous qu'à moi. Merci, dit-il. Je craignais d'être indiscret. Mais je vais vous faire un aveu dépouillé d'artifice. Je crève de faim. Ah, dis-je vaguement. J'ai eu une défaillance à cet endroit même, sinon je n'eusse pas eu le plaisir de faire votre connaissance. Vous êtes renfrogné, monsieur, dont j'ignore le nom. Rassurez-vous, je ne réduirai pas vos provisions. Vous êtes libre de me laisser aux griffes de la famine. Je ne suis pas aussi dénué de compassion que vous pouvez le supposer, fis-je maussade. Attention, je vais vous prendre au mot. L'étrange bonhomme avait le front de plaisanter. Je ne suis pas un parasite, reprit-il, et les tapeurs m'horripilent. Cependant, je suis prêt à être parasite, gourmand et peut-être ivrogne. Messire Gaster est un tyran dont on ne discute pas longtemps les ordres. Par conséquent, pas de surprise. Si vous m'offrez à manger, j'accepte. Je vous offre à manger, dis-je. Je devrais refuser, répondit-il. Je suis près de la mort et je vais m'éloigner d'elle pour la rejoindre ensuite. C'est puéril, monsieur.
Quel est votre nom ?
Dantenot. Vous allez vraiment me donner à manger ?
Oui.
Alors ne me faites pas languir davantage.
Suivez-moi là-dedans. On m'attend.
Vous n'êtes pas seul. Vos camarades ne seront peut-être pas si magnanimes que vous. Venez, cette chaleur nous assomme. Je suis avec ma fiancée, son père et sa mère. Je suis confus de me présenter à eux dans cet état. Il trottinait derrière moi comme un rat. Les pieds en sang, dit-il. Mais j'oublie ces misères puisque je vais me rassasier avant de dire adieu à ce monde. Je vous défends de parler de la sorte aux personnes que vous allez voir, dis-je sèchement. Madame Sternbal est déjà assez alarmée.
J'y mettrai des formes, monsieur Dantenot. Vous êtes énergique, sacrebleu. Je le suis aussi. Ce sera divertissant de lutter contre le destin.